Jeudi 20 juin, 21h sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actualité sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonjour Romain.
Bonjour Xavier.
Comment vas-tu ?
Écoute, ça va pas mal.
Hein, après cette longue semaine à regarder plein d'annonces de jeux vidéo.
Ça a été long, hein.
Bah, ça a été long.
Ça a été un long week-end.
Et bah, ce qui a été encore plus long, c'est la semaine d'après où, oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Et les gens qui ont annoncé des trucs, la plupart ont dit, et si vous essayez nos jeux ?
Avec des démos, donc.
Exactement. Ce qui s'est passé. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous faire un retour sur les sélections des jeux du Neo Game Fest et on va vous faire aussi un rapide retour sur les Nintendo Direct qui a eu lieu ce mardi. Et pour cela, nous ne sommes pas que deux, nous sommes aussi avec Nicolas. Salut Nicolas.
Salut, merci beaucoup pour l'invitation.
Merci d'être là.
Merci à toi. Donc Nicolas, ancien, je vais dire grand chef de Factor News.
Ouais, on va dire ça comme ça.
Ancien grand chef de Factor News, pilier du podcast Quick Load et actuellement aussi partie prenante, chroniqueur et maintenant t'es membre à part entière en fait du nouveau podcast Cooldown.
Oui, effectivement, donc l'équipe de Quick Load qui s'est rassemblée autour de Nodus et Fougère et Sanakan pour relancer un peu le principe de Quick Load. Alors je suis venu pour faire l'épisode pilote. Pour des raisons personnelles, je ne serai pas là sur les premiers épisodes, mais au moins j'étais là pour relancer un projet qui nous tenait à cœur à toute l'équipe depuis longtemps.
Et épisode qui est déjà disponible donc, sur toutes les interfaces de podcast. Si vous cherchez Cooldown, donc C-O-O-L-D-O-W-N.
Exactement.
Vous allez trouver ce podcast. Il parle de quoi, ce premier
épisode? Le premier épisode parle principalement de Balatro. Et on a fait un segment aussi sur le review bombing, donc qui rejoint un petit peu. On va parler de Steam aujourd'hui, donc ça rejoint un petit peu. C'était principalement les deux sujets.
D'accord, c'est un truc qui nous intéresse en soi parce qu'on en a déjà parlé entre nous.
Oui, on a.
Mais pas à l'antenne.
Oui, mais écoute, du coup, on va écouter Cooldown pour faire bien exprès de repomper tous vos arguments et dire qu'on est très intelligent. Ça me paraît être la meilleure chose à faire.
T'as déjà fait autrement?
Ça, j'appelle ça une émission. avant de parler des différents jeux qu'on a pu tester lors du Steam Neo Fest, et on précisera ce qu'est le Steam Neo Fest de façon un peu plus précise, abordons la fin de cette grande période du non-E3, c'est-à-dire du Summer Game Fest, qui est l'époque toujours début juin où la plupart des éditeurs, qu'ils soient gros ou petits, essayent justement d'annoncer les jeux qui vont paraître en général dans l'année ou dans l'année à venir. Et donc on a eu l'annonce surprise, enfin demi-surprise du Nintendo Direct. Nintendo en général fait toujours ses annonces pendant cette période-là, sachant que le Summer Game Fest c'était début juin jusqu'au 9, si je dis pas de bêtises, 9-10.
Le Summer Game Fest en tant que tel c'était uniquement le 8 ou le 9
le 8 9. Et le 9, mais en tout cas, en gros, toute la période des conférences
voilà,
était jusqu'au
9-10. C'était du jeudi au dimanche, voire au lundi si on inclut le Ubisoft.
Voilà. On attendait le Nintendo Direct pour le 12, parce que c'était juste après cette période-là. Finalement, ils l'ont fait une semaine après, c'est-à-dire mardi dernier. Et il y a eu quelques annonces. Je ne vais pas détailler toutes les annonces, mais seulement celles que j'ai retenues et qui me font plaisir. La première annonce, c'est un jeu en coopératif Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Un jeu qui m'intéresse particulièrement parce que les anciens Mario et Luigi étaient plus orientés uniquement RPG. Celui-là a l'air d'avoir pas mal de gameplay différents et qui me font penser justement un peu au jeu... Le jeu du... les jeux en coop, les jeux en coop sur PC par les gars qui a fait Brothers.
Et je me souviens plus. It Takes Two.
Voilà. En fait, il y avait des phases qui me faisaient pas mal penser à It Takes Two en termes de gameplay, en termes de coopération. Et il y avait certes des phases de très RPG, mais des phases un peu plus action, un peu plus diverses. Et moi, ça me plaisait pas mal. Et c'est quelque chose qui où je me dis, tiens, c'est des. Je trouve que c'est des choses qui manquent un peu, des fois, un peu dans l'univers Nintendo. Pas le côté coop, mais du côté coop avec différents. Différents gameplay dans le même jeu. Même si c'est des choses que pouvait déjà proposer apparemment Mario Wonder. Mais Mario Wonder, c'est plus des principes de jeu que du gameplay pur.
Ça me fait penser au Mario Party, en fait, où tu enchaînes différentes petites. Petit type de jeu, même si là t'es vraiment dans une compétition, t'es pas dans le.
Oui, c'est ça, c'est plus. Moi, je
dans une coopération narrative.
Dans le côté coop, ouais.
Et j'ai pas suivi, c'est du coup c'est coop en local ou c'est quelque chose.
C'est coop local, ouais.
Ok.
C'est coop local, après, soyons clairs, Nintendo et le Hotline, c'est pas trop ça.
Après, ils ont eu quelques.
Il y a Splatoon, on est bien d'accord.
Voilà, mais... et puis Tetris.
Tetris. Voilà, mais pour.
Tetris Effect, c'était ça hein.
Non, c'est. Tetris, j'ai envie de dire Tetris 99.
Oui, c'est ça, Tetris 99. Il y a eu pareil pour F-Zero 99
voilà,
aussi.
Donc ils ont fait des battles royales avec certaines de leurs licences phares.
Oui.
Mais effectivement, c'est pour ça que je me posais la question, ça aurait plus de sens en local pour y jouer, y compris avec des gens qui sont peut-être moins habitués aux jeux vidéo.
Oui.
Parce que c'est vrai que de ce qu'on a vu, ça, c'est très varié, mais ça a l'air aussi relativement accessible.
C'est ça.
Donc voilà. Plutôt...
Moi, clairement, c'est pour jouer avec mon héritier, évidemment.
Et oui.
Et c'est vrai que des fois, le truc, c'est que je commence à boucler sur les jeux Lego. Donc. Donc je suis toujours intéressé par ce genre de proposition.
Il y en aura un nouveau bientôt.
De Lego ?
Bah oui. Oui. Horizon
ouais,
Lego.
Non. Quoi, Lego Fortnite ? Non,
pitié. Non, pas celui-là.
le deuxième jeu que j'ai retenu, alors effectivement, il y a un jeu Zelda où on joue Zelda, très étrange.
Oui, c'est bizarre qu'il s'appelle Zelda d'ailleurs.
Oui, bah, un jeu Zelda qui s'appelle Zelda, oui, bah, comme Sector l'avait dit, il devrait s'appeler Link.
Juste pour le principe, quoi. Vraiment
Link,
pour le principe.
Echoes of Memory, tu vois, il devrait s'appeler comme ça. Mais c'est pas tant celui-là qui m'a intéressé, mais le petit pied de nez, parce que chaque Nintendo Direct, il y a des gens qui attendent la suite d'Hollow Knight, enfin le
Silk Song,
le Silk Song, c'est
la chanson de la soie.
Voilà. Et il est pas arrivé. Par contre, il y a un Metroidvania qui s'est pointé avec une jolie idée qui s'appelle Bio pour Memories in Orbit. Donc c'est un Metroidvania. Alors celui-là, il est plus orienté de ce qu'on a vu, plus orienté plateforme que baston. Mm. Un peu donc plus orienté Ori que
exploration
plus orienté Ori que Bloodstained pour faire simple quoi. Mm. Surtout on a appris que c'était fait par un studio français, que c'était édité par Focus édité par Focus Interactive et que ce qu'on avait vu bougeait très bien, était très joli, donc j'ai hâte de mettre mes papates dessus mais pas sur Switch hein, ce sera sur PC.
Et oui, parce que effectivement c'était peut-être un Nintendo Direct, mais les quelques petites annonces on les a aussi retrouvées pour la plupart sur Steam celui que tu viens de citer, j'ai déjà oublié le nom.
Donc Mio Memories Merci. In Orbit.
Voilà.
Nicolas, toi, est-ce que tu joues à des trucs sur Switch ? Est-ce qu'il y a des choses que tu attends sur Switch de manière générale ?
Alors, je joue beaucoup plus sur Switch maintenant que sur PC parce que la Switch a l'avantage d'être nomade, évidemment.
Bon, bah, je m'en vais. Hein.
Ouais. Oui, non, mais laisse
ça ne me concerne plus.
Laisse-nous entre personnes de culture, merci bien.
C'est vrai que quand on a beaucoup moins de temps pour jouer, d'un seul coup, les plateformes mobiles, alors que ce soit mon téléphone ou la Switch, d'un seul coup, ça devient ma plateforme principale.
Ouais.
Alors du coup c'est vrai que le Zelda m'a quand même un peu tapé dans l'œil parce que c'est pas enfin j'imagine que techniquement c'est de la 3D mais ça reprend plutôt l'esthétique 2D des épisodes de l'épisode Super NES.
En termes d'esthétique de DA, ça me faisait beaucoup penser au remake de Link's Awakening qui a été fait il y a quoi 3 ans comme ça.
Ouais, peut-être que c'est le même moteur, en tout cas ça y ressemble beaucoup.
Ce serait pas étonnant.
Voilà. Et la partie qui vraiment, moi, m'intrigue, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'implémenter dans ce format de Zelda, des recettes qui ont fonctionné sur les deux derniers Zelda 3D, donc Breath of the Wild et Tears of the Kingdom,
oui,
avec beaucoup de manipulations de l'environnement pour trouver des solutions, des passages, etc.
Avec chacun, c'est avec une liberté dans les, voilà, dans les solutions, là où historiquement les jeux Zelda étaient très orientés, ben il te faut une solution pour un problème, quoi.
C'était très linéaire et c'est vrai que là la tendance est plutôt au jeu bac à sable, donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner.
Ouais, non, mais effectivement. Tu vois, la Switch, c'est bien, tu devrais essayer quand même.
Ah non, mais je, en tant que joueur PC, de voir qu'absolument tous les jeux sortent également, en tout cas une bonne partie,
et ah pas, oui, les et pas que et des Mario tous les jours.
Non, 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 mais pas beaucoup de platformers, oui, beaucoup de roguelike deck building, beaucoup de, enfin, il y a énormément de jeux finalement qui sortent également sur Switch.
Voilà.
Et c'est, je m'étais posé la question à un moment parce que effectivement, ça a du sens. Les point and click également sortent, pas tous, mais quand même une bonne partie.
Ça a du sens commercialement aussi, puisque bah, du coup la Switch c'est un très très gros parc de consoles, donc en particulier pour des jeux comme ça, un des peut-être qui vont se vendre moins cher aussi que les gros triple A.
Oui.
Il y a, voilà, il y a un,
aussi, il y a un marché.
Ça serait se priver d'un marché que de sortir uniquement sur PC.
Donc pour moi c'est un vrai facteur aussi du succès de la. Un des facteurs aussi du succès de la Switch, c'est que très rapidement, par rapport aux autres consoles Nintendo qui étaient plus refermées dessus, rapidement ils ont dit non mais ouais, les indés, venez faire vos jeux chez nous, on les vend, il n'y a pas de souci. Non, le l'eShop, c'est une poubelle comme partout ailleurs.
Allez, oui, venez. Complètement. Hein, tu vas trouver de tout également dessus.
Et
bizarrement, tu vois, la com que prend Nintendo, c'est 30%.
Bah, et pourtant, Epic n'a pas voulu. Bon.
J'ai pas compris.
Non, voilà. Je crois que le Fortnite est gratos sur.
Le Fortnite est gratos de base. Personne ne paye le Fortnite juste pour y jouer de base.
Et t'as pas besoin du online pour y jouer. Et donc, je crois qu'ils avaient déjà fait un deal particulier. Mais bref. Mm-hmm. En tout cas, voilà, c'était avec Nintendo Direct, c'est bon. On a traité toutes les conférences d'annonces de ce début juin et de la période de tous les jeux.
Mm-hmm.
En bilan global, eh ben, il y en avait beaucoup. Vivement l'année prochaine. Voilà.
Que les jeux qu'on a vus sortent, c'est ça que tu veux dire ?
Ouais, c'est ça.
Mm-hmm.
Et qu'on puisse dire ah, ils étaient bien, mais regardons encore le suivant parce qu'on n'est pas du tout dans une roue de hamster.
On verra d'ailleurs, oui, l'année prochaine, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses dans l'industrie depuis le début de l'année, fin de l'année dernière et début de l'année, en termes de fermeture de studio, en termes de licenciement. Mm-hmm. Il y a effectivement une grosse masse quand même de quantité de jeux qui ont été présentés pendant ce non-E3.
Oui.
Ça sera intéressant de voir comment l'industrie va se renouveler, à quel point, comment est-ce que des nouveaux studios vont se créer à partir des gens qui ont quitté l'industrie de force. Mm-hmm. Comment ça va se passer. D'ailleurs, on l'a vu avec beaucoup de nouveaux studios, en tout cas, où à chaque fois que tu as un nouveau studio qui se présente, tu sais,
par
des anciens d'eux, des gens qui ont bossé là-bas. Bon, t'as tout, CD Projekt en Pologne qui fait des jeux maintenant, parce que de toute façon, à chaque fois, ils essorent.
Je crois que dans ma barque, j'ai un jeu polonais.
Oh, oui, mais ça m'étonne pas.
Mais oui. Non, mais de toute façon, le truc, ce qu'il faut se dire, c'est que globalement, tous les licenciements, c'est pas trop grave, parce que comme Jeff a dit, de toute façon, il y a des beaux jeux PC indépendants qui sont là.
Et oui.
C'est pas très grave. Merci, Jeff.
Et oui.
Il a vraiment dit pendant le Summer Game Fest, et c'était.
Ah, il a sauvé la soirée.
C'était d'un tact incroyable.
Oui,
non,
oui,
vraiment.
Oui. Voilà. Non, c'était pas inintéressant comme réflexion, de faire remarquer que les jeux indés avaient effectivement pris clairement le pouvoir en début d'année. Et on en a parlé, en fait, sur les jeux qui... T'as eu des succès indés plus ou moins imprévisibles, ou en tout cas pas dans cette ampleur, pendant 6 mois, là. Entre de Palworld, à Balatro, t'as des trucs, en fait, que tu pouvais éventuellement envisager que ça fonctionne, mais pas forcément dans ces proportions-là.
Ouais, non, mais t'inquiète pas, évidemment. Enfin, ce sera... Tous les chiffres qu'on est en train de voir, ils sont risibles à partir du moment où GTA 6 sortira, mais ok.
Oui, évidemment. Évidemment, mais encore une fois, c'est intéressant, et ça montre bien la diversité et la richesse du jeu vidéo aujourd'hui, enfin, et depuis des années maintenant.
Ouais.
Il y en a pour... Il y a beaucoup de structures différentes, il y a beaucoup de types de jeux, de formats de jeux, de types de... Enfin, des jeux où tu vas vraiment t'impliquer pendant des heures, et des jeux que tu vas jouer par petites sessions d'une demi-heure, une heure. Il y a vraiment de tout, on en parlait la dernière fois, en fait, des jeux qui ont vraiment très réussi justement à se caler comme les balatros ou ce genre de choses qui viennent s'intercaler dans les, au milieu, en, entre des sessions de jeux beaucoup plus gros, en fait, et qui ont trouvé leur place de cette façon.
Ouais, mais apparemment, mais ce que j'ai trouvé étonnant, c'est notamment que ce soit dans State of Play ou même dans le State of Play donc de Sony, ou le Xbox Showcase de Microsoft, à chaque fois, t'as eu quand même des présentations de jeux orientés premium solo. Vous avez aimé Dark Souls ? Vous avez aimé Elden Ring ?
Voilà. Vous allez leur prendre une petite couche.
Vous allez leur bouffer. Donc, et qui sont quand même des expériences premium qui sont pas prévues sur un temps extrêmement long non plus, tu vois. Et donc, il y a quand même, il y a quand même cette orientation de l'industrie où, ah, on a vu qu'Elden Ring, ça vous a plu, alors on va essayer d'y aller aussi, quoi.
Bah, c'est toujours un petit peu le problème. Il y a toujours un peu d'inertie, en fait, entre le truc qui fonctionne et puis les copies qui arrivent des années après. Enfin, en fonction des formats, on parlait de Condor, donc le free-to-play 5v5 qui arrive après des années, je crois que c'est 7 ans de développement, après que, enfin à l'époque ils ont commencé à le développer parce que Overwatch ça cartonnait, parce que ce genre de jeu cartonnait, ils arrivent 7 ans après dans une industrie, en tout cas un marché qui a complètement changé, et qui, enfin, bonne chance, franchement bonne chance.
Oui, non mais honnêtement, surtout on lui fait de bonne chance, surtout que apparemment vu que et ben comme je pense la plupart des joueurs ont oublié son nom parce que c'est pas Condor mais Concorde. Mais
tu vois, voilà. C'est un très bon exemple.
Mais bonne chance.
Mais tout le monde a compris de quoi je parlais. Bon voilà. Mais oui. Et surtout le truc que t'arrives. J'entends bien.
Déjà il est générique comme tout ton jeu et en plus il sera payant par rapport aux autres. C'est pas de bol. Hein.
Comment il s'appelle le jeu générique exactement sur le même concept que Valve est en train de.
Oui, alors j'ai complètement raté. Aussi, en fait, voilà. On a parlé.
Il est sorti le truc ou pas ?
Non, il est pas sorti.
En fait, c'est une espèce de leak. On ne sait pas si c'est un peu organisé pour tâter le terrain ou si c'est un vrai leak ou si c'est un projet abandonné. C'est pas très très clair, mais effectivement, on a vu passer des espèces de vidéos de gameplay d'un arena shooter fortement inspiré de ce que fait Blizzard, donc d'Overwatch, et c'est générique au possible, et en fait personne ne comprend parce que c'est Valve, ils sortent un jeu tous les 10 ans et à chaque fois c'est une révolution dans le jeu vidéo, et là quand on a un leak c'est un espèce de truc ultra générique qui ressemble, c'est un peu une sorte de Team Fortress mélangé à Overwatch, et ça
Il s'était déjà planté dans la même logique avec Artifact.
Leur jeu de cartes, ouais.
Avec Artifact, pardon, effectivement. Par exemple. Mais bon,
ils étaient très nuls, oui.
Ouais. Bah, non, qui n'était pas nul en soi, mais qui n'a pas trouvé son public, en fait, et qui n'est pas très différent des autres, qui n'est pas très différent d'un Hearthstone, d'un Legend of Runeterra, enfin, des jeux qui... Legend of Runeterra, d'ailleurs, il avait... Il n'a pas passé le cap de la masse critique qui lui permet aujourd'hui de prendre un minimum de place sur ce genre de créneau.
Mais les gens préféraient jouer au Gwent plutôt que... Plutôt qu'Artifact, c'est que bon.
Oui, voilà. Non, mais ils préféraient jouer à Hearthstone aussi. Hein.
Bon. Non, mais Hearthstone, d'accord, mais bah. Gwent, quoi.
Ouais, mais les concepts sont très 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 proches. Enfin, tu changes le lore, tu changes le décor, c'est le même jeu.
Ça n'a rien à voir, il y en a un qui est polonais.
Ça a très mal se finir cette émission. En parlant de Pologne.
Oui, en parlant de Steam Néofest. Oui, alors juste, le Steam Néofest, c'est quoi ? C'est censé être un festival. Alors, je vais dire d'abord ce que c'est censé être et après, on va dire ce que c'est. Mm-hmm. Hein, ce que c'est censé être, c'est en gros, 3 à 4 fois par an, Steam va organiser un festival où ils vont, encourager les gens qui ont des démos de jeux à les mettre en ligne sur Steam pour que les gens puissent les essayer et pour ensuite pour pouvoir en fait toutes les mettre en avant pendant une semaine. On avait déjà parlé du Steam Néofest, je crois que c'était en février dernier, on en avait parlé ici. Mm-hmm. Il y en a un là en juin, je sais qu'il y en a aussi
en octobre
en général.
Ouais.
Je sais pas s'il y en a pas un pendant les Game Awards, genre à la toute fin.
Je suis pas sûr, je crois que c'est 3 par an.
Donc c'est 3 par an.
En moyenne, enfin, ces dernières années. Ouais, hein, et ça fait depuis quoi, 2021 ? Ça existe 2020, 2021 ?
Ça fait un petit temps.
Et ça a évolué.
Et en tout cas, ce qui est intéressant sur le papier, c'est que ce sont des démos qui sont censés vraiment être disponibles uniquement sur ces dates-là, c'est-à-dire pendant la semaine du Néofest, et que pas disponible avant et pas disponible après. Sauf que
c'était le projet au départ du au départ à la création des Next, enfin des Next ou des NeoFest en fonction de.
Sauf que
si on prend la version anglaise ou française.
C'est ça. Mais sauf que c'est effectivement le cas pour certaines démos. Il y a certaines démos qui arrivent le premier jour du Steam NeoFest et qui disparaissent le dernier jour de la démo du Steam NeoFest. On en est à un point où c'est presque une minorité.
Bah pas loin en tout cas dans les titres que moi je suis un minimum et puis alors t'as déjà le fait que t'en aies beaucoup qui l'aient sorti un peu avant. Déjà parce que en fait on sait très bien que pendant le Steam NeoFest t'as effectivement des centaines. Je crois que là, cette année, c'était 1486, le chiffre que j'ai vu.
Ouais, 1480.
Sur la page spécifique, en fait, sur Steam du NeoFest, en fait, il recensait 1486 démos qui avaient décidé de participer. Parce que, voilà, il y en a d'autres, des démos, il y en a qui sortent tous les jours, des démos, pour les jeux. Donc, mais je pense que c'est vraiment lié à ça, en fait. Il y a eu un mouvement qui a commencé il y a quelques années, entre ça et les prologues. Donc, toute une, la redécouverte finalement des démos, quand on a grandi dans les années 90, on achetait les magazines, il y avait des CD dedans, il y avait des démos. Et c'était un moyen incroyable pour connaître les jeux. Pour,
je sais qu'il y a plein de jeux que j'ai achetés parce que j'avais pu jouer à la démo auparavant, sinon j'aurais jamais entendu parler du jeu.
Exactement. Et c'est un truc qui s'est perdu avec la disparition des magazines physique, papier, ceux qui ont survécu n'ont pas continué avec cette tradition, parce que tu en avais dans tous les magazines papier, et pardon.
Hérité aussi du shareware. Hein,
Complètement, c'est la continuité de ça.
PC, le shareware où les premiers niveaux étaient gratuits, et si tu voulais jouer au jeu entier, il fallait que tu envoies un chèque.
Donc tu achètes le jeu finalement, quoi.
C'était la fête.
Techniquement une démo.
Oui, c'est ça.
Complètement, d'où on a tous commencé avec ça. Et après, t'avais également ça dans les magazines de consoles. Et y a eu une période où en fait, ça a plus ou moins disparu. Quoi. On n'avait plus réellement accès à ce genre de.
Je dirais qu'il y a eu 10-15 ans où il n'y avait quasiment plus.
Ouais.
Pendant 10-15 ans, ça existait, mais c'était pas distribué de si facilement.
Ouais, il fallait aller un peu sur les sites des développeurs ou des studios.
Ou limite, c'était un truc un peu exceptionnel quand il y avait un jeu qui te balançait une démo. Quoi. Typiquement, beaucoup de gens se souviennent de Pity.
Oui, c'était une démo de base.
Parce que
il n'y avait pas de jeu derrière.
Parce
donc
que c'était une époque où les démos consoles, c'était pas si fréquent.
Ouais. Et en fait, il y a eu deux choses qui ont fait que pendant une période, les démos ont disparu. Il y a eu une frilosité des éditeurs, donc là je ne parle pas des studios de développement, mais vraiment des éditeurs qui trouvaient ça contre-productif d'offrir gratuitement une partie du jeu, en se disant sur des jeux, par exemple, je sais pas, un point and click à une durée de vie limitée à quelques heures, se dire on va donner une heure gratuite, ça représente déjà, je sais pas, 10% du jeu, et ça leur semblait contre-productif économiquement. Et le fait que c'était peut-être un tout petit peu plus facile de se faire remarquer. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement disparu, notamment avec Steam, mais pas que. Hein. Aujourd'hui, tous les stores, c'est l'enfer pour sortir du lot et se faire remarquer auprès des joueurs. Et aujourd'hui, effectivement, tous les outils que tu peux utiliser pour aller chercher des joueurs et les intéresser. On sait par exemple que le système de wishlist sur Steam, c'est extrêmement important parce que ça te donne un indicateur assez fort des ventes que tu vas faire au lancement de ton jeu, qui est en général la période où tu fais le plus gros de ton chiffre d'affaires.
C'est important pour Steam également, parce que Steam va mettre en avant également ton jeu avant même sa sortie ou pendant le moment de la sortie, parce que tu as dépassé un certain seuil en fait, de wishlist. Donc c'est aussi important dans
vraiment,
ce sens-là.
Effectivement, le fait juste d'exister avant que le jeu existe, alors c'est pas mon métier, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux dans le marketing et dans les relations presse, mais le fait que ton jeu existe dans l'esprit des gens avant qu'il soit sorti, aujourd'hui c'est devenu incontournable si tu veux que ça soit viable économiquement. Aujourd'hui le NeoFest ça s'est transformé en ça. En fait, c'est un moment où ton jeu qui n'est pas encore sorti, tu vas pouvoir le mettre en avant. Alors ça devient de plus en plus la jungle, puisqu'on disait 1480, c'est difficile de trier, mais peut-être que ça changera justement parce que tout le monde se précipite là-dessus. Mais là, en ce moment, c'est si tu veux faire parler de ton jeu avant qu'il soit sorti, c'est une étape indispensable. Ouais. En ce moment, faut que tu fasses une démo. Il faut que tu fasses une démo.
Il y a de toute façon trop de concurrence, ça vient. Si t'en fais pas, en fait, ton jeu a très peu de visibilité parce que qui dit démo dit possibilité même pour ses potentiels de partage sur Twitch, partage par des créateurs de contenu. Si tu fais que de la vidéo et qu'il y a zéro gameplay et que le jeu il sorte qu'à un moment. T'es condamné à prier que tu aies la même aventure que celle de Among Us. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens vont regarder ton jeu. Quoi.
Ou que tu viennes de. Ou que tu sois shadow droppé comme un Hi-Fi Rush.
Ouais, non, mais c'est pas.
C'est un contexte, hein.
Oui, mais et puis c'est pas les mêmes.
C'est pas les mêmes moyens.
Je mets tout de suite les gros studios, les AA et AAA, limite, je les mets encore à part là-dedans. Je pense moins assujetti au truc des démos. Par rapport, je pense qu'un
Balatro, le Steam Next Fest de février, clairement, c'est ça qui a terminé le travail.
Un Balatro, oui, mais je veux dire, par exemple, les jeux Sony, les jeux first party Sony, les jeux first party Xbox n'ont pas besoin de démos.
Ils ont déjà le reste, la puissance marketing qui va
avec. Ils ont déjà la machine qui va avec. C'est pour ça que le Hi-Fi Rush, pour moi, c'était moins...
Ah oui, non, mais je comprends la logique, hein, mais bon. Mais du coup, oui, t'as quand même... tu parlais en fait des influenceurs, des vidéastes et des streamers. C'est en partie pour ça que la plupart, que certaines démos étaient disponibles depuis la semaine dernière déjà, même avant encore, déjà pour les distribuer à la presse et aux influenceurs.
Ouais, effectivement, parce que là, on va vous donner on va vous parler de quelques démos dont on a parlé, parce que oui, on n'a pas testé les 1489 démos. Parce qu'il faut savoir, parmi les 1489, à titre personnel, rien que sur ma wishlist, donc sur ma liste de souhaits, il y en avait la moitié avec des démos que j'avais déjà essayé parce qu'elles étaient déjà disponibles, pas forcément quelques jours avant, mais vraiment plusieurs mois avant, que ça soit lors de la Ludo Narracon ou lors d'un précédent Steam Neo Fest, ou même lors d'un drop qui était juste lié à l'actualité du jeu en question, quoi. Donc il y avait au moins la moitié des jeux qui m'intéressaient dont j'avais déjà vu la démo, donc je me suis intéressé à voir autre chose. Donc pareil sur les 1689, j'ai joué à des jeux atrocement nul, parce que faut pas oublier.
Et oui, mais parce que t'as pas des goûts extrêmement précis non plus.
C'est pas une histoire de goût pour le coup, hein, c'est que les jeux. Parce que oui, on n'a pas oublié, on adore les jeux vidéo. Steam, c'est la moitié d'une poubelle. Quand même. Steam, c'est moi. C'est la moitié d'une poubelle.
Bah oui, parce qu'il n'y a pas de curation.
Voilà.
Donc, n'importe qui peut y aller, en fait. C'est tout l'inconvénient et la richesse du truc.
Et c'est pareil pour le Steam Neo Fest, où tu as des démos de trucs absolument infâmes.
C'est pour ça que les 1480, c'est un chiffre, mais il n'a pas d'intérêt en vrai. Comme tu dis, il y en a qui étaient déjà sortis, les mêmes démos qui étaient déjà dispo avant. On fait pas rentrer dans le tas les prologues, qui sont finalement la même chose, mais en permettant aux studios, aux éditeurs d'avoir des métriques. Sur le nombre de gens qui possèdent le jeu, qui ont lancé ce truc-là, bref.
Jusqu'où ils vont, etc.
Ouais, exactement.
Alors, Romain, c'est quoi la pâquerette dans le purin qui t'a...
Oula. À ce point.
Non, y a...
Direct.
Non, honnêtement, je suis tombé sur des jeux qui étaient absolument scandaleux, avec des reprises d'assets, des trucs vraiment dégueux, quoi.
Moi, celui qui m'a intéressé, qui m'intéressait déjà, mais celui-là, il a quand même eu droit à pas mal de marketing déjà depuis longtemps, The Alters, où en fait c'est un survival spatial, entre guillemets, où tu vas te retrouver dans une station spatiale, sur une planète hostile, et où tu vas devoir, je résume énormément, où tu vas devoir en fait créer des alter-ego de toi, qui ont vécu une vie, qui à un moment dans leur vie, en fait, on fait un autre choix que celui que le personnage principal a fait. Et du coup, ils ont d'autres compétences. Ils ont développé d'autres compétences, ils ont fait d'autres métiers, ils ont fait d'autres formations. Mais ils ont également quelque chose de très, très commun avec toi, l'enfance, les parents, etc. Et du coup, donc, pour t'aider, parce que pour survivre, il va falloir quand même que tu aies avec toi des gens capables de faire certaines choses que toi, tu ne sais pas faire. Donc tu vas aller créer à partir d'un une sorte de cristal un peu chelou, bref, science-fiction, ta gueule, c'est magique. Et donc, en fait, moi, j'ai trouvé pas le jeu intéressant en lui-même, parce que le jeu, c'est vraiment un truc de survie de base où tu vas récolter des ressources. À ce niveau-là, oui. Au niveau de la récolte de ressources pour pouvoir construire des trucs, etc. Tu agrandis tu construis des nouvelles salles, en fait, dans ta station spatiale, etc. Mais il y a tout un côté narratif qui est vraiment extrêmement centré sur le personnage lui-même, ce qu'il a vécu et ce qu'il aurait pu vivre à un moment, en fait, où il a fait des choix. Et notamment de partir faire telles études, ou alors de rester avec sa mère. Enfin, tu vois, t'as des moments comme ça, en fait, charnières dans sa vie, qui vont déclencher une autre réalité, une autre, etc. Donc le gars va avoir d'autres compétences que toi t'as pas et que t'en as besoin. Sauf que la première discussion que t'as avec le gars qui vient d'arriver, si tu veux, à partir d'une machine de rien, il a tous ses souvenirs là. Il comprend pas ce qu'il fait là, qui tu es. Il comprend pas que c'est toi qui l'as créé. Et il le prend très mal, en fait. Tu vois, en gros, tu m'as créé parce que t'avais besoin de moi, mais si t'avais pas eu besoin de moi, je serais où? J'existerais? Enfin, tu vois. Et très très vite, le jeu te met dans cette discussion-là. Donc, voilà, j'ai bien aimé cette approche-là, qui est beaucoup plus intéressante, finalement, que le gameplay dans ce que montre la démo. Mm-hmm. Même si le jeu est relativement joli, enfin, ouais. Mais, voilà. Et donc, les trailers qu'on avait vus, t'avais vraiment une quinzaine de gars qui se ressemblent, enfin... comme deux gouttes d'eau, avec certains qui ont des moustaches, d'autres qui n'ont pas la moustache, les cheveux longs, les cheveux courts, enfin, la même personne, mais qui a vécu autre chose.
Il y avait un côté dérangeant dans la...
Exactement, t'avais vraiment un côté...
Dans le trailer, je me souviens qu'il y avait un côté assez dérangeant qui était un peu appuyé.
Mais du coup, là, ça m'a d'autant plus rendu curieux. S'ils savent appuyer sur cette partie-là, qui me semble en tout cas beaucoup plus intéressante que la partie gameplay, survie, récolte de ressources pour construire des trucs. Voilà.
Okay.
C'est celui qui m'a un petit peu marqué quand même.
Très bien. Un jeu 11-bit studio, je crois, hein, c'est ça ?
Bonne question.
En tout cas, je crois qu'il est édité par 11-bit, qui sont les gens qui ont édité notamment This War of Mine, Frostpunk, et d'autres jeux fort sympathiques comme ceux-là.
qui respirent la joie de vivre.
Oui, de manière générale. Donc,
oui, c'est ça. Et là, il y a un minimum d'humour un peu, parfois, tu vois, c'est déjà un peu plus...
Je pense que les deux jeux dont on parle, c'est des jeux qui ont été vraiment aussi développés par eux, alors que je crois que celui-là est uniquement édité par eux. Ouais. Parce que c'est vrai que... je me souviens que c'était un truc 11-bit, parce que c'est un truc que j'avais vu au Triple E, si je dis pas de bêtises.
Ah ouais ?
Moi, il me semble. Hein, mais par contre, c'est vrai que le trailer, avec un peu de l'humour, ça faisait pas très 11-bit, vu ce qu'ils font d'habitude. Donc, voilà, à voir.
Si, c'est eux le développeur.
Ah, c'est eux le développeur.
Officiellement, c'est eux. Donc, ils doivent avoir plusieurs.
Ils ont dû envie. Non, mais.
Voilà.
En même temps,
ceux qui n'étaient pas assez drôles.
Si on se marrait un peu pour voir.
Ceux qui n'étaient pas assez drôles pour bosser sur Frostpunk, ils les ont mis là-bas. Tu vois.
Très bien. Eh bien, moi, je vais parler d'un jeu qui s'appelle Closer the Distance, qui est un jeu de Osmotic Studio. Un studio allemand qui notamment avait fait les deux jeux Orwell. Le premier Orwell, le deuxième c'est Ignorance
is Strength.
C'est ça.
Et le premier, je sais plus.
Qui, pour rappel, sont des jeux pas du tout politiques.
Bah non, mais le jeu vidéo n'est pas politique, enfin.
Alors celui-là encore moins.
Ça se saurait. D'ailleurs, n'oubliez pas dans quelques jours de pas faire n'importe quoi.
Voilà, faites pas de la merde. Merci bien. Donc Orwell en fait, qui était déjà un jeu très qui était un jeu ce qu'on appelle d'interface en fait, mais qui était un jeu très interventionniste en soi, où en gros tu te retrouvais à intervenir dans la vie des gens même s'ils en avaient pas envie,
et même s'ils en avaient pas conscience.
Mais quand bien même ils en avaient conscience, des fois sur les fins du jeu, sans spoiler, t'en avais rien à taper.
Franchement. Oui.
Donc voilà, c'était déjà des jeux très intéressants à ce niveau-là. Et là, c'est un jeu qui prend un point de vue différent, parce que c'est un life sim comme les Sims en fait. Sauf que c'est un life sim avec un scénario imposé qui existe déjà. Et quel est ce scénario ? En gros, on se trouve dans un petit village scandinave avec donc une communauté relativement réduite. Et comme dans toute bonne série scandinave, qu'est-ce qui arrive ? Oh, bah, y a quelqu'un qui crève.
Et c'est celui qu'on n'attendait pas qu'il l'a tué. Pardon. Alors, non, je ne veux pas raconter la fin.
Pour
mais...
une fois, non, c'est une mort accidentelle. Et c'est là où
Oui.
Alors, mais en
fait, fait que la démo, hein, je suis sûr que c'est plus compliqué que ça.
En tout cas, c'est pas un jeu d'enquête.
D'accord.
C'est pas un jeu, tu dis à qui a tué, ma... c'est pas un whodunit.
Okay.
C'est plus un jeu de, on est une petite communauté, comment les gens vont gérer cette nouvelle-là.
Mm-hmm.
Et c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, comme dans n'importe quel live sim, tu vas gérer la faim, la fatigue, l'ennui, tout ça, mais il faut que tu gères...
Tes relations, en fait.
Faut que tu gères les relations des gens, faut que tu gères les desiderata des gens. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que les gens, à certains moments, en gros, vont parler les uns avec les autres et tout. Et toi, tu, si t'es là, tu pourras avoir des bribes de scénario. Si t'es pas là, et ben t'auras rien, parce que les gens, ils vont pas s'arrêter.
Oui, ils font leur vie. C'est à toi d'être présent ou non, quoi.
Et le truc qui va se passer, c'est que en fait, en écoutant comme ça, tu vas avoir des bribes d'infos, comme par exemple le village. En fait, à la base, il y avait que vieille dame qui était là, et c'est des idéalistes qui venaient de la ville qui sont venus pour s'installer. Et qu'il y en a qui veulent continuer le truc, il y en a qui sont devenus pragmatiques et qui disent qu'il va peut-être falloir faire des sous, d'autres qui veulent partir, d'autres qui disent non, mais il faut tenir la communauté, tout ça. Et c'est vachement intéressant. En plus, parce que moi, je suis vraiment... Les Sims, ça ne m'intéresse pas en soi.
Mmh.
Mais pas à cause des mécaniques, mais parce qu'en fait, t'es obligé de faire ta propre histoire. Et là, je trouvais ça intéressant d'avoir... plein de personnes, c'est pas une histoire, mais des personnages qui vont réagir de façon organique par rapport à un événement, qui vont eux avoir même leur propre histoire, et selon que tu les diriges ou pas, soit ils vont continuer leur vie, soit tu vas essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent ou s'améliorent pas, ou se désagrègent exprès, ou tu vas favoriser ou pas des relations. Et moi, je trouve ça intéressant, enfin. Une fois de plus, je sais que je fais beaucoup le comparatif avec les séries scandinaves, mais c'est un peu ce que je retrouve aussi dans des séries type Broadchurch ou des trucs comme ça. En fait, où l'important, c'est pas de savoir qui a buté, mais l'important, c'est comment la communauté survit à ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça que c'était très très bien foutu dans la démo, et j'ai hâte de voir la suite. Vraiment.
Ok. Et du coup, toi, Nico,
Moi, j'ai malheureusement pas eu le temps du tout de jouer à des démos. Je voulais juste rebondir parce que ça m'évoque beaucoup, je sais pas si tu les avais fait, les jeux d'Igoutte Fabrique, Mutation et Soul Sea Chronicle, parce que le fait d'avoir une communauté, des gens à parler, à qui tu peux parler à des heures précises pour augmenter ta connaissance et tes relations avec les gens, ça m'évoque beaucoup ça. Donc si jamais t'as...
Oui, alors c'est marrant parce qu'encore des Allemands et...
Ils sont danois, je crois, dit Goutte.
Ah, pourtant, avec un nom pareil.
Avec un nom pareil, effectivement. Mais
peut-être qu'on dit pareil en allemand, en danois.
Ah, non, je pense sais que Goutte, ça se dit pas en danois comme ça.
Non, mais... je pense que c'est bien allemand, mais comme c'était un collectif d'art. Enfin, je dis c'était parce que là, en ce moment.
Ils ont eu des gros problèmes après, justement.
Ça a fermé complètement. Ça a fermé complètement.
Non, alors ça a pas fermé. Ils se sont mis en stand-by parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de financement pour leur prochain projet.
C'est ça, comme beaucoup en ce moment.
Et je sais que Mutazione, ça fait partie des jeux que je dois faire depuis super longtemps, et je voulais finir Mutazione avant de m'intéresser à Soul Sea, qui a l'air assez sympa.
Qui a l'air dans la même veine, et c'est des jeux qui sont très marqués par leur directrice narrative, qui est Anani Klein, qui elle vient plutôt du milieu artistique à la base. Et qui du coup est arrivé dans le jeu vidéo en essayant d'implémenter beaucoup de mécaniques de gameplay, mais qui vont explorer par la narration les relations entre les êtres humains. Donc ils n'ont pas de démo vu qu'en ce moment ils sont en stand-by et qu'ils n'ont pas de projet, enfin ils n'ont pas de financement pour leur prochain projet. Mais ça m'évoquait ça.
Ouais, malheureusement, c'est vrai qu'il y a. Alors, je me souviens qu'il y a pas. J'avais cherché à l'époque, il n'y a pas de démo disponible pour Soul Sea.
Alors, je crois qu'ils en ont sorti une.
Mais elle n'est pas disponible sur Steam actuellement.
D'accord, ok.
Parce que j'avais regardé justement ces derniers temps, parce que des fois, justement, quand il y avait eu l'annonce comme quoi le studio allait se mettre en stand-by, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien savoir. On en a beaucoup parlé de Soul Sea. Parce que Mutazione, je l'avais eu grâce à Epic à l'époque, qui avait donné des sous, visiblement pas assez, à Digoutte Fabrique pour l'offrir gratuitement. Mais c'était vraiment quasiment dans les premiers jeux, c'était il y a fort fort longtemps. Mais oui, effectivement, c'est des jeux dont il faut que j'explore plus, mais Je sais pas, par contre, il y avait aussi les mécaniques de live sim, comme les Sims, où il fallait genre... non, mais maintenant, il va falloir aller manger, maintenant, il va falloir aller dormir, ce genre de truc.
Okay, non, d'accord. Non, c'était vraiment plus la partie le monde vit à son rythme. Mmh. Et toi, tu peux aller parler aux gens auxquels t'as envie de parler. Okay. Et ça va... voilà, tu vas avoir des informations ou pas, développer des relations ou pas, mais c'est plus cet aspect-là. Y a pas vraiment de... Tu peux pas perdre au sens propre...
Bah, là par exemple, je sais pas combien, enfin je sais qu'il est prévu plusieurs fins dans le jeu Closer the Distance, mais de ce que j'ai compris globalement, c'est plusieurs fins à base de est-ce que tout le monde se barre, est-ce que les gens vont rester,
est-ce que tout le monde meurt.
Je sais pas si c'est possible, mais j'imagine que oui. Est-ce qu'on peut provoquer que quelqu'un tue tout le monde par désespoir? Honnêtement, si on peut arriver à ce genre de truc, limite, je dis que le jeu est assez costaud. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est pas forcément des mécaniques que je vois dans beaucoup de jeux au final. Est-ce qu'il y a un autre jeu dont tu voudrais nous parler?
Alors ouais, vite fait. Même si la démo était disponible quelques jours avant le fest, je pense que j'y ai joué il y a peut-être 3-4 semaines maintenant, mais il est toujours dispo maintenant. C'est Hollywood Animal.
D'accord. C'est quoi ?
Qui est le nouveau jeu des créateurs de This is the Police.
Ok.
Le 1 et le 2, qui était donc des jeux narratifs avec une partie gestion autour d'un commissariat. Donc on devait envoyer les enquêteurs, etc., sur des interventions, sur différentes missions. Là, ils ont changé de sujet. En fait, on gère un studio de cinéma à Hollywood, vraiment au début de l'âge d'or d'Hollywood. Et donc, il y a toute la partie gestion où on va construire, si tu veux, son empire de cinéma, ses studios, les endroits où on va enregistrer, faire de la recherche pour un petit peu développer des nouvelles techniques d'enregistrement, de films, etc., de pellicules. Et un petit peu comme un Game Dev Tycoon, j'utilise le nom, même si c'est sans doute le pire jeu de gestion de studio de jeux vidéo, par rapport à Mad Games Tycoon, par exemple, qui est bien meilleur. Mais c'est pour montrer un petit peu l'idée, c'est-à-dire qu'on va affecter des gens à l'écriture, on va choisir des acteurs pour jouer dans les différents films. On a finalement assez peu de contrôle sur le contenu. On va donner le thème, on va mettre un petit peu, genre, est-ce qu'il y a un héros, est-ce qu'il y a un antagoniste, est-ce qu'il y a un moment, une troisième personne qui vient un petit peu bousculer tout ça, enfin bref, comment ça se termine, est-ce que c'est une bonne fin, est-ce que c'est une mauvaise fin, enfin tu vois le truc, et du coup...
Tu fais des prompts comme avec ChatGPT alors?
Ouais, avec différentes possibilités. Si tu veux, au tout début, bah, t'as un petit peu les trucs standards, et puis après, tu vas faire un petit peu de recherche, tu vas faire un petit peu de...
Tu vas rencontrer des gens. Tu vas rencontrer des gens à la
fin ou pas? Non. En tout cas, pas dans la version démo.
D'accord.
Donc voilà. Mais en même temps, t'as toute une partie un petit peu narrative qu'on a entreaperçue, je dirais, dans les trailers surtout. Ils avaient sorti un court-métrage de quasiment 3 minutes, ou avec le moteur du jeu, où tu vois, en fait, toi, en tant que... Je crois que c'était un acteur qui se faisait choper par la mafia, qui lui disait, en gros, ce film-là, tu vas le faire, même si tu veux pas, parce que nous, on a mis du pognon dessus, etc. Enfin, bref. Donc, on reste un petit peu dans l'esprit d'This is the Police, avec un environnement, si tu veux, à moitié corrompu, à moitié où le pognon est en importance, mais où, finalement, le contenu, c'est pas ce qui est le plus important. Donc tu vas pouvoir aussi discuter avec ceux qui donnent les notes, avoir tout un réseau de cinéma pour présenter tes films. Bref, voilà, vraiment un jeu de gestion, du coup, avec cette logique de ciné. C'est pas le premier que je vois dans le genre. Il y avait Movie House il y a quelques mois que j'avais testé à l'époque.
Tu m'as dit qu'il était nul à chier.
Oh, c'était dégueulasse.
Ouais. Mais
là, il y a déjà quelque chose d'un petit peu intéressant. Alors, il avait quelques défauts aussi, parce que tu sais jamais vraiment si, quand tu lances un projet, combien de personnes vont être impliquées, pendant combien de temps elles vont être accaparées par le projet, par exemple un acteur.
Ah, bah, comme un vrai film alors.
Ouais, mais par exemple, en fait, entre le moment où tu dis OK, on lance le projet, tu choisis tes acteurs, par exemple, bah, ils vont être bloqués même si le tournage n'a pas commencé. Alors tu peux pas les...
Comme un vrai putain de film.
Non, parce qu'au final, t'as toute la partie préparation, t'as toute la partie rédaction du script en lui-même, de la préparation des décors, etc. Toute cette partie-là, durant laquelle les acteurs sont pas nécessaires, et tu peux pas les utiliser sur d'autres films qui, eux, ont fini cette partie, tu vois. Et par contre, donc voilà, pendant des mois, certaines des personnes de ton studio sont indisponibles, alors que tu comprends pas forcément pourquoi, parce qu'ils sont pas concernés par l'étape actuelle. Est-ce que c'est la démo? Est-ce que c'est comme ça que ce sera dans le jeu? Et il manquait des informations pour te dire voilà ce que ça implique de lancer tel projet avec telle personne. Tu peux pas forcément recruter des nouvelles personnes dans les postes que tu as besoin. Enfin, est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est la démo ou est-ce que c'était des choses que qui seront comme ça dans le jeu, pas forcément très bien expliquées? Bon, bonne question, mais voilà, dans le genre, jeu de gestion de, on va dire, de studio créatif, quel que soit le thème, le sujet final, enfin l'objectif final, c'était très intéressant. Il est, voilà, je trouve bien foutu. Je crois que la démo, j'y ai passé quasiment 2 heures, jusqu'à ce que le jeu me dise, c'est bon, t'es arrivé au bout. Donc il y a quand même de quoi faire, quand même de quoi découvrir. Et voilà, c'est le genre de jeu qui m'intéresse en soi, parce que les jeux de gestion, j'aime bien. Et celui-là, je le trouvais intéressant. Surtout d'où il vient. This is the Police, ils avaient des énormes défauts, mais ils avaient aussi de belles qualités.
Très bien. Eh ben, moi, je vais parler de deux jeux, d'un style, d'un type de jeu qui m'intéresse un peu. C'est deux point and click.
Juste un peu.
Un peu.
T'en as déjà parlé de ce genre.
Pas souvent.
Pas à chaque fois.
Pas à chaque émission.
Exactement. Parce que des fois, tu parles de Bobby. Mais de Bobby Kotick, qui te prend vraiment déjà pas mal de temps. Des fois, t'as pas le temps de parler de Point & Click.
Voilà, c'est ça.
Et ça finit pareil, je pense que c'est pour ça. Kotick, Point & Click, je pense qu'il y a un lien.
Il y a un truc. Bah, je pense que je pourrais, si j'avais le talent, je ferais un Point & Click Bobby Kotick.
Oui.
Il y a grave moyen. Bobby Kotick chez Activision, tu peux faire les aventures, quoi.
Et ça finit avec Bobby Kotick qui part avec une valise.
Qui part avec
une valise de pognon.
Et plein de gens qui ont plus de boulot.
c'est ça.
Bobby
qui jette un cocktail molotov derrière lui, comme ça, pour faire, voilà, tout cramer derrière lui quand il s'en va.
Cool guys don't look at explosions.
Exactement.
Oh, c'est
exactement ça.
Oh, Bobby. Oh là là.
Tu as encore déconné. Enfin bon. Mais c'est pas le sujet.
Premier jeu, Deep Sleep Labyrinth of the Forsaken. Un jeu par un dénommé Script. Je sais pas comment ça se prononce parce que je ne connais pas le polonais, mais je vais dire Scriptwelder.
D'accord, j'ai pas mieux compris que si je comprenais
Script,
le polonais, je pense. Mais...
Scriptwelder, mais avec un W.
Comme soudeur.
Je sais pas.
En anglais, welder, c'est soudeur. C'est soudeur. Un soudeur de script.
Donc c'est Scriptwelder,
okay. Peut-être.
En tout cas, c'est un solo dev polonais.
D'accord.
Qui nous a fait en fait un point and click. C'est pas son premier point and click, il en a fait plusieurs dans le style. C'est pas, en fait, c'est un point and click qui a tendance épouvante, donc pas horrifique, mais avec je sais pas si tu y avais joué ou pas.
Ben, je suis en train de regarder, il me semble que j'ai joué et pour moi on a déjà passé l'étape horreur, tu vois.
D'accord, ok.
On est déjà dans l'épouvante, horreur, tout ce que tu veux, le truc que je joue pas la nuit, tu vois.
Mais en tout cas, le truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que le pitch, c'est que on est une personne qui se réveille et qui se rend compte en fait qu'elle est dans un rêve, et pas dans son rêve, dans le rêve de quelqu'un d'autre, qui est le rêve de son frangin.
Et au bout d'environ 40 secondes, il y a déjà des trucs qui disparaissent avec des espèces de trucs horribles qui apparaissent.
Voilà. Non, non, non.
C'est
pas
celui-là.
Ah.
Si.
Ah, bah j'ai pas vu que c'est pas horrible, ça va.
Vas-y, fais le beau.
Ça va. Et en fait, bon, au-delà du côté point and click à gros pixels, bon, pour le coup, je trouve que le pixel art, il est pas de, c'est pas, il est un peu grossier, c'est pas le plus joli.
Comme sur les précédents, parce que c'est les Deep Sleep, c'est toute une série. Ça. Il y avait eu la trilogie précédente,
la trilogie,
en fait, qui était sortie un par un,
et
puis ensuite il a fait une trilogie.
Il a fait une adaptation dans un jeu un peu plus poussé.
C'est ça.
Et en fait, moi, ce que j'avais bien aimé, c'est le fait que déjà, t'as des énigmes qui sont assez prometteuses, qui sont pas basées uniquement sur de l'association d'items, mais aussi sur la compréhension de l'environnement dans lequel t'es. Mais aussi, tu vas avoir en fait des items avec une durabilité. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir utiliser 20. Tu sais déjà l'item, tu vas l'avoir, tu sais combien de fois tu pourras l'utiliser.
C'est-à-dire que tu vas pouvoir te tromper
ou pas.
Et qu'est-ce qui se passe si tu casses un objet alors que tu en avais besoin ailleurs, mais tu l'as mal utilisé quelque part. Ou est-ce que c'est prévu, tu vois,
de... Alors, en tout cas, dans la démo, j'avais essayé de dire, tiens, si j'essaye de taper sur le machin, le jeu dit, non, c'est pas fait pour ça.
Ah oui, d'accord, il t'empêche de...
Il t'empêche de faire de la merde. Mais en fait, en fait, ça, ce que je trouvais intéressant, c'est que trop de fois, tu te dis, bon, bah merde, j'ai 25 items, allez hop, on va essayer tous les anneaux, on va essayer tous les associés, et on va voir ce que le jeu le fait.
Trop de fois dans le jeu, c'est nécessaire parce que le game design est prévu comme ça, et voilà, que la moon logic vient te casser les couilles.
Et que ouais, je trouve que c'est un bon moyen déjà pour empêcher ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que déjà, t'as des items qui vont disparaître. T'as des... Parce que le nombre de jeux où tu te retrouves en fin de jeu avec un nombre d'items débiles que t'as utilisé une fois et en fait tu les as plus utilisés. Et
je ne nommerai pas ceux qui te filent des objets que tu peux pas utiliser nulle part, qui servent à rien du tout, mais que tu gardes jusqu'à la fin du jeu. Ah bah, je les nommerai pas, hein, mais il y en a.
Ouais,
et moi, ça devrait être interdit. Je sais pas, à la convention de Genève, il y a un truc, il faudrait le mettre quelque part.
Je suis parti de Board Punk à cause de ça, donc voilà.
Oui, oui, oui. Bah, ne joue pas à... Mince.
Ok.
Le jeu de...
Okay.
Non, non, mais voilà. Ne jouez pas à celui-là, surtout.
Très bien.
Virtuaverse.
Ah, bah, c'est pareil. Oui, effectivement. Voilà.
Qui est un univers incroyable, une musique incroyable de Master Boot Record, mais voilà, la logique des énigmes te donne envie d'étrangler des chatons.
Mais en tout cas,
en
ouais, clairement, ce Deep Sleep, il me botte bien. Pourtant, moi, une fois de plus, hein, moi, l'horreur, c'est vraiment pas mon truc. À part peut-être justement en point and click, parce qu'il y a un côté plus distancié. Mmh. Je sais que par exemple, pour un jeu qui te parlera, Nicolas, peut-être, un jeu qui s'appelle The Excavation of Hobbsboro.
Auquel je n'ai pas joué, mais qui est sur ma liste depuis...
Tu dégages de mon studio. Casse-toi de mon studio.
Moi, j'ai le droit d'être là parce que j'ai fait la démo. Hein. quand même, hein, je précise.
Oui, Excavation of Hobbsboro. Mais bon, je pense qu'il te parlera surtout parce que Wajetai.
Oui.
Voilà. Et qui, pareil, n'a pas l'air d'être un jeu d'horreur, très honnêtement, et franchement un jeu d'horreur sur son dernier... son final et dans son dernier tiers. Je sais que tu me mets le même chose en FPS ou à la première personne, jamais j'approche de ce jeu, quoi. Donc jamais j'en m'en approche, voilà, quoi.
Moi, je suis un peu pareil, je me souviens notamment de Franbo, qui était un peu aussi horrifique.
Franbo est dégueulasse en plus. Il est dégueulasse.
Non, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer.
Ouais, ouais, et j'aurais sûrement pas pu y jouer effectivement dans un format FPS beaucoup plus immersif, mais ouais. Effectivement en point and click.
Il était déjà compliqué. Enfin, en tout cas pour moi, c'était. Là, t'es dans le dérangeant plus que dans l'horreur parfois.
Oui.
Enfin, plus souvent dans le dérangeant vraiment, mais compliqué quand même.
Oui. Moi, Franbo, je sais que j'ai pas pu le finir parce que c'était trop en fait déjà pour moi. Mais je pense que c'est le côté plus sanguinolent et cradingue.
Ouais.
Là où, par exemple, les trucs d'horreur dont je parle, c'est pas forcément dans les deep sleep, c'est pas forcément de l'horreur où tu vas démembrer des gens ou des trucs ou des têtes qui roulent ou des trucs qui pissent le sang de partout. C'est juste des tropes de l'horreur relativement classiques, quoi, qui vont être plus facilement gérables.
Horreur psychologique.
C'est ça. Okay. C'est ça. Alors, un autre type d'horreur, malheureusement qu'on connaît plus, qui là, on va parler d'un jeu qui s'appelle Broken Life, qui est un jeu de Iko Sama, qui est un solo dev ukrainien, lui, et c'est un point and click qui paraît tout mignon avec ses animaux anthropomorphes, sauf que c'est l'histoire d'un soldat qui revient dans son village après avoir perdu la guerre et qui va voir en fait dans quel état est sa maison et sa famille.
Mmh.
Fun.
Oui, oui, oui. Mais tu, oui. Il a commencé le jeu il y a combien de temps?
Joker.
Oui, voilà.
Voilà. Alors, en vrai, le jeu, j'ai surtout joué pour la thématique.
Ouais.
En termes d'animation, ça a l'air d'être plutôt un jeu flash. Parmi les trucs qui m'ont plu, outre les énigmes qui sont plutôt classiques et le twist de fin qui va, disons. Pour les gens qui auront joué à Blackwell, disons qu'il va impliquer de parler à des fantômes. Voilà. Le jeu, j'ai trouvé plutôt intéressant dans sa manière de faire. Je pense qu'il y a des trucs en termes de mécanique qu'il faudra affiner. Je comprends pour le côté solo dev, mais quand même mettre une voix 100% IA. C'est pas super.
Je suis pas convaincu non plus. C'est faudrait un jour on fera une vraie émission sur l'IA dans
c'est,
le jeu.
C'est pas ce que j'aime en tout cas. Je sais pas si c'est l'IA, mais clairement il a mis le texte et puis c'est un truc, c'est un robot qui parle. Quoi.
Ouais, ok.
Je sais, mais comme il y a des fois un peu d'intonation, je dirais qu'il y a quelque chose comme ça, mais bon, c'est relativement plat et ça s'entend, c'est très robotique. C'est un peu gênant. Mais par contre, pour le coup, pour la thématique, exactement comme on en avait dit la semaine dernière, quand on avait parlé de Warren Chappas, il y a un truc que je pense à faire sur le.
Sur le sujet, ouais.
Sur le sujet. Un dernier jeu chacun ? Ou moi je peux y aller ?
J'en fais un petit dernier.
Vas-y.
Mais parce que c'est un studio que j'aime bien, c'est Strange Scaffold. Le studio de Xavier Nelson Jr. D'accord. Qui avait déjà sorti El Paso Elsewhere, qui en avait fait quelques autres aussi, enfin, je crois qu'ils en sont une quinzaine maintenant de jeux. Et du coup leur prochain jeu c'est I Am Your Beast, qui sera un FPS.
C'est un FPS, hein, c'est ça ?
C'est un FPS à moitié, comment dire, à moitié QTE aussi, parce que t'as énormément de choses en fait. Ouais, rythmique. Être dans le bon mouvement, en fait, tu chopes les flingues, tu les jettes à la gueule des mecs, tu rattrapes leur arme en vol. Enfin, t'as toute une. Il y a un petit côté qui m'a fait penser un peu à Hunger Foot,
ouais,
sur ce côté-là.
Un côté très chorégraphié aussi.
Pas tant, mais quand même avec. Tu peux monter aux arbres, etc. Enfin, tu peux vraiment utiliser le décor également. Et c'est vrai que c'est un peu le premier. Enfin, le premier, pas le premier shooter, parce qu'El Paso Elsewhere, t'es déjà un petit peu dans le shoot. Mais là, t'es vraiment en vue FPS, avec tout un scénar aussi qui est un petit peu raconté dans le prologue, enfin dans ce que montre la démo. Mais c'est intéressant parce que c'est un des jeux qui a été présenté pour la première fois, donc pendant les, je crois, au PC Gaming Show de mémoire, ou un des shows du Summer Game Fest. Et en fait, dans la foulée, ils ont balancé la page sur Steam et la démo. Donc ils sont pas si nombreux finalement, enfin il y en a quelques-uns hein, qui l'ont fait, mais tous l'ont pas fait avec autant de succès, j'ai envie de dire, parce que entre la présentation dans le PC Gaming Show et les démos du Steam Next Fest, c'est un des jeux qui a été les plus joués, enfin, je pense qu'ils sont dans les 15-20 premiers des jeux les plus joués, et ils ont accumulé 31 000 de wishlist en une semaine.
Ouais.
C'est, une belle réussite à ce niveau-là en termes de configuration. Tu présentes ton jeu juste après, en fait, la page existe déjà sur Steam et t'as déjà la démo en fait.
Mais
et l'enchaînement a bien marché pour eux pour attirer du.
C'est quoi,
attirer de la wishlist.
C'est comme un chiffre qui m'avait étonné pour le coup quand j'ai parlé de Deep Sleep. Deep Sleep a quand même chopé 10 000 wishlists.
Mm-hmm.
En quelques jours.
Et Deep Sleep, encore une fois, c'est la continuité d'un truc qui existe déjà, mais qui était déjà très niche.
Mais on parle de point and click.
Et pas les plus connus.
Et des point and click moches. Donc c'est pas.
Oui, mais on n'en est plus là quand on apprécie les point and click.
Qu'est-ce
qu'on en a à foutre de. Hein, oui, non. Non, Excavation of Bone était plus joli que la plupart des widgets.
Mais de manière générale, le boulot de Ben Chandler sur les widgets est assez excellent. Avant de terminer, déjà Nicolas, est-ce que tu as un point and click que tu veux nous recommander et qui sortira bientôt ?
Alors pas vraiment, parce que les point and click là j'en ai plutôt une longue liste de jeux en retard
qui sont déjà sortis
et qu'il faut que je rattrape.
C'est quoi le prochain que tu vas rattraper alors ?
Bah du coup Hobbs Barrow est tout en haut sur ma liste. Ouais. Il se trouve que j'avais pas fait non plus le précédent Widget Eye qui était le.
Lequel ? Ah, Unavowed.
Unavowed,
ouais.
Qui est aussi, voilà.
Très bien aussi.
Ouais, mais du coup, oui, c'est des choses. J'ai, j'en ai tellement que. Heureusement pour.
En même temps, on va être clair sur les widgets. C'est difficile de se tromper.
Oui.
Parce qu'ils sont quand même genre tous très très bien.
On peut y aller les yeux fermés.
Il y en a juste certains qui sont genre juste bien. Les autres sont juste très bien.
Bah, comme tu le disais, c'est un style aussi.
Ouais.
C'est pas un. On est à l'opposé de ce que je disais tout à l'heure, la Moon Logic, où tu dois associer des trucs improbables entre eux pour faire progresser l'histoire de façon un petit peu ou fortuite ou parce que t'as lu une solution. Donc on est vraiment à l'inverse de ça, qui peut parfois être un peu considéré comme presque trop facile, justement,
oui,
parce que c'est tellement logique que en fait il y avait pas d'autre solution et que c'est la bonne solution.
Mais c'est vrai.
Mais
que c'est...
ils sont très agréables à jouer aussi parce qu'ils sont extrêmement bien écrits.
C'est vrai que pour les Wajetai, tu viens pour la qualité d'écriture, tu viens aussi pour la qualité de doublage. Hein. C'est assez
oui,
c'est
important. Ça joue pas mal.
Et puis je suis désolé, tu viens pour les charentaises parce que tu vas tu glisses les pieds comme des chaussons et t'es trop ouais, bien dedans.
Surtout pour les gens de notre génération.
Mais oui.
Voilà, qui ont grandi avec. Des LucasArts.
Ouais, mais non, tu vois, tu parlais de Franbo. Ouais. Je trouve que Franbo n'est pas un mauvais équilibre à ce niveau-là. L'histoire est très bien écrite, ça, c'est pas le problème. Mais surtout au niveau des énigmes, elles ne sont pas faciles en claquant des doigts. Elles sont suffisamment bizarres parce que l'univers est tellement bizarre qu'il n'y a rien qui est évident. Et en même temps, elles ne sont pas ingérables.
Ouais.
Je trouve qu'une des grosses qualités de Franbo, c'est ça, en fait. Ouais. C'est sa capacité à quand même te challenger un minimum. Au-delà de l'univers qui est quand même très dérangeant, de l'ambiance générale qui est compliquée, enfin qui est voilà, il y a des moments et des lieux dans le jeu, faut les encaisser.
Ouais.
Mais je l'ai trouvé très très bien équilibré pour ça et c'est une de ses plus grosses qualités. Ce qui est très difficile dans ce genre, oui, en fait, de trouver le bon équilibre.
La difficulté va venir de l'absurde et c'est pas forcément toujours
une le plus rigolo,
mécanique
ouais.
pour le plus grand monde en fait. Ça veut dire qu'il faut
tu vas pas mettre une queue de singe sur un mât parce que ça fait monkey wrench pour pouvoir bordel.
C'était il y a 35 ans.
Oui, bah,
on grandit un peu.
Il y en a qui disent que c'est comme ça qu'on fait une énigme encore aujourd'hui. Donc merci bien.
C'est pas complètement faux. Et mais on ne citera pas de nom.
Et ben voilà, on aurait pu vous parler
de beaucoup plus de démos.
De beaucoup plus de démos. On aurait pu vous parler de Farwell North, qui nous fait jouer un Border Collie, donc meilleur jeu du siècle. Point.
On aurait pu parler de Dustborn.
Alors j'ai joué à la démo de Dustborn.
Ouais, c'est très c'était bizarre. Hein.
C'était pas bien.
T'as du jeu de rythme, du combat en TPS, enfin c'est très très bizarre.
Ouais, et puis et le problème c'est que tout est un peu loupé en fait.
La musique, hein, c'est dommage. Hein.
Ouais, que ce soit la musique ou le gameplay, c'était un peu tout loupé.
Ouais, c'est con parce que c'est un peu le thème en fait la musique.
Ouais, Dustborn.
Ce que j'en ai vu non plus m'a pas convaincu.
Non plus, ouais, ben bah ouais.
Et puis,
il y a d'autres trucs dont on parlera quand ils sortiront, de toute façon.
Oui,
parce
que la grande majorité, effectivement, n'est pas prêt de sortir dans les semaines qui viennent.
Ouais, notamment. Farwell North, il va sortir le 15 août. Donc, peut-être que fin août, quand on reviendra de vacances, eh bien, on en parlera.
Yes.
Eh bien, merci Nicolas.
Bah, merci beaucoup pour l'invitation, ça a été un plaisir.
Bah, merci ouais, d'être venu, c'est cool. C'est un plaisir.
Et quant à vous, auditeurs, je pense qu'on refera une émission, pas la semaine prochaine, hein, parce que je serai occupé à être sourd, mais la semaine suivante, pour la dernière émission de la saison, je pense.
Oui.
Début juillet, après ce sera les grandes vacances. Et on fera, je sais pas de quoi on parlera, mais ce sera toujours forcément bien vu que c'est le nerf de la game.
Exactement. Merci en tout cas d'avoir écouté. Et puis donc la semaine prochaine à voir. Dans deux semaines, c'est sûr.
C'est sûr, dans deux semaines.
Bon, tu seras encore avec un ou deux grammes. comme quoi, comment ça le Hellfest, ça laisse des traces. Bon, passez une bonne soirée.
Ciao.
Salut.